est verte et bourrée de printemps. Mais la beauté, moi, qui m'abreuve, c'est celle de la vie et des gens. Je ne veux rien qui embarrasse, dans mon regard ni dans ce mot. Dites aux garçons qui vous embrassent que vous servirez un cadeau. Je ne saurais vous dire en face, je me sens libre, jeune et beau. Et je pourrais bien à sa place en offrir comme il vous en faut et quelques marmots. Je vais descendre en garde, belle garde, et vous n'en prenez pas ombrage. Il n'y a pas à prendre garde.
J'ai l'histoire. Donc vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc vous venez d'entendre un petit morceau des Modettes, Bitter Truth, donc un morceau anglais de 1980. Et évidemment, José a toujours le sens de l'à-propos et du calembour indiqué, puisque les Modettes vont nous introduire à un bouquin intitulé Une lecture féministe de la dette. Modette, dette, vous l'avez ? Parce que José est subtil, parfois on a du mal à suivre. Qui est donc un livre écrit par des chercheuses et militantes féministes, donc Lucy Caballero et Veronica Gago. Et donc, ça porte le sous-titre du bouquin édité chez Cileb, c'est « Violence économique et désobéissance financière ». Donc ici, l'idée, c'est que la dette, c'est évidemment, ça commence à être un vieux problème, vieux, ça ne veut pas dire qu'il est sans intérêt, ça veut dire qu'on entend parler depuis longtemps et qu'il n'a toujours pas résolu. Mais, c'est-à-dire le fait que, globalement, la dette est devenue un mode de gouvernementalité, à la fois dans la politique intérieure de beaucoup d'États. Il faut couper tous les services sociaux, on a une grosse dette. Mais aussi un service, un instrument de gouvernementalité en politique étrangère. Tel pays est endetté, je ne sais pas moi, par hasard, la Grèce. Donc il faut qu'il vende tout ce qu'il possède pour se désendetter, même s'ils sont encore endettés après, peu importe. Et, d'autre part, aussi, depuis quelques années, on s'est intéressé de façon peut-être un peu plus, au fait que la dette, ça va aussi concerner les citoyens. C'est-à-dire, c'est pas simplement la dette de son État, c'est pas simplement la dette des États étrangers. Ça va être quelles sont les conséquences de la dette sur ma vie. Oui. Par exemple, si vous êtes un étudiant américain et que vous êtes endetté à mort, ça veut dire que vous allez peut-être devoir prendre un travail qui vous plaît pas. Ça veut dire que peut-être vous n'allez pas pouvoir le quitter. Ça veut dire que peut-être vous n'allez pas vous syndiquer. Ça veut dire que peut-être, parce que vous allez flipper de le perdre. Parce que si vous le perdez, comment est-ce que vous payez votre dette?
Et si vous travaillez pour rembourser votre prêt, comment vous allez pouvoir avoir le temps de militer?
Voilà. Et donc, tout un tas de problèmes particuliers, mais qui sont en plus, surdéterminés quand vous êtes en plus de tout ça une femme.
Exactement.
Et donc, c'est Morane, notre économiste spécialiste, qui va qui va nous le présenter, parce que elle, contrairement à moi, sait de quoi elle parle. Mais bon, il fallait un peu que j'imite Jean-Mathias en parlant trop longtemps.
Ok. Du coup, comme tu le disais, elle qualifie leur approche, comme ce qui est bien connu maintenant, d'une approche par le bas, en fait, de la dette. Et le mot d'ordre de leur livre, qu'elle répète souvent, l'objectif, en fait, c'est de sortir la dette du placard et de sortir de l'abstraction, donc de la dette. Donc... Effectivement, elles vont essayer d'adopter une approche féministe dans le sens où elles vont mettre en évidence ce que la dette fait particulièrement aux femmes, en fait. Et donc elles vont lier au final la dette avec les violences machistes, donc ça on verra comment elles le font. Et puis bien sûr, elle donne des directions et des instruments potentiels de lutte. Donc au début du livre, elles reviennent donc sur ce que tu disais, ce que fait la dette aux agents privés en fait, donc notamment aux ménages. Et elles montrent donc comment est-ce que la dette affecte plus particulièrement les femmes. Pour le dire vite, avant de rentrer dans le détail, l'idée c'est que la dette affecte plus les femmes, notamment parce que les femmes sont les premières usagères et salariées dans les services publics. Donc ça c'est un peu un point essentiel, et bien sûr comme tu l'as dit, on va le voir.
Dans les services publics, alors ici je comprends pas.
C'est-à-dire que l'emploi salarié des femmes, oui, dans le service public est surreprenté. Il y a, d'accord, plus de femmes fonctionnaires que d'hommes fonctionnaires en gros.
Ok.
Voilà. Pour plein de raisons qu'on abordera. Donc elles nous font une approche par le bas et elles reviennent sur toutes les conséquences de la dette à échelle globale. Et ensuite, avec des cas d'études très pratiques, donc qui se portent essentiellement sur l'Argentine, parce qu'elles sont argentines toutes les deux, mais plus globalement dans leur livre, sur tous les pays d'Amérique du Sud, en fait, elles vont lire la dette à l'aune de cette approche.
Oui, l'Argentine qui a été un pays extrêmement touché par les politiques du FMI.
Par les politiques du FMI depuis longtemps, et elles... Donc le livre est paru en 2019 en fait, et il a été écrit dans un contexte très particulier. C'était le contexte de l'élection, enfin de la campagne électorale qui opposait Macri à Milei, et qui a été donc l'occasion d'une nouvelle contraction de prêts auprès du FMI, justement pour financer la campagne de Macri. Et donc on a eu une recrudescence des conséquences de la dette dans un pays qui était déjà fort mal en point. Voilà. Donc peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette question de comment justement la dette est un instrument de gouvernance, avant de voir ce qu'il en est pour les femmes précisément. Donc elles reprennent, alors elles évoquent plusieurs définitions de la dette, dimensions de la dette, et elles partent de l'analyse de Graeber, en fait. Elles s'appuient d'abord sur l'analyse de Graeber, qui, pour le dire très vite, met en évidence que la dette moderne était un instrument de soumission des pays, donc du tiers-monde, au pays du Nord, quoi, pour aller vite.
Et qu'inversement, par exemple, la dette des États-Unis, qui est absolument colossale, peut être perçue davantage comme une espèce de tribu de pays féodaux, de pays féodalisés par les États-Unis, qui prêtent de l'argent aux États-Unis, comme vous, en quelque sorte, vous prêteriez de l'argent à votre voisin super balèze et ses potes super balèzes qui arrivent gentiment et qui vous disent « tu me prêtes de l'argent ?»
Exactement, et elle mentionne un chiffre assez intéressant. Alors, ça, c'est pas uniquement les États-Unis, mais elle rappelle que sur ces 40 dernières années-là, les pays du Sud ont remboursé 35 fois le montant de leur dette aux pays du Nord. Parce que le jeu des intérêts, etc., qui s'envolent à chaque fois et qui deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que les pays s'endettent, parce que le risque de défaut qu'ils ne remboursent pas est de plus en plus élevé. Bref.
On peut aussi spéculer sur la dette des pays étrangers, sur le marché secondaire, je crois, un truc comme ça.
Oui, c'est exactement ce qui se passe. L'idée, c'est assez simple, c'est que on prête de l'argent aux pays qui sont endettés, et plus ils sont endettés, plus ça nous rapporte de l'argent, parce que plus il y a un risque de défaut élevé, en réalité, les risques de défaut, dans l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup.
Les États payent.
Oui, les États finissent par payer, parce que les États ne font pas faillite, en fait. En réalité, ils ne disparaissent pas. À l'exception près d'un pays comme l'Allemagne, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, mais bon, bref. Donc voilà, elle part de cette définition-là de la dette de Graeber, et elle rappelle certains mécanismes et le rôle du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des institutions quand même qui sont chargées en fait d'apporter une aide aux pays, notamment en développement. Une aide monétaire, en fait une aide financière.
Assortie de conditions.
Exactement.
Le FMI, c'est le Fonds Monétaire International, pour nos auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas.
Voilà. Qui donc peut octroyer des prêts sous condition de ce qu'on appelle des restructurations, en gros d'une ingérence dans les politiques publiques d'État des pays auxquels ils prêtent de l'argent, en fait. Et par quoi ça se traduit? C'est ce que tu disais en début d'émission. En fait, notamment, pour aller vite, le FMI exige tout un tas de réformes qui permettent de réduire le déficit et de rendre ce qu'on appelle la dette soutenable, de s'assurer qu'on va payer la dette, en fait. Et ces politiques se traduisent par une énorme baisse des dépenses de l'État, notamment dans tout ce qui est services publics, forcément. Et cette baisse des services publics s'accompagne d'autres mécanismes économiques qui empirent ces effets-là d'appauvrissement des pays, notamment de privatisation. Parce que qui dit baisse des services publics dit transfert de ces services-là communs, publics, en fait, à des organismes privés. Ce qui provoque d'autres effets en chaîne. Parce que si vous donnez ces services-là à des entreprises privées, ce qui se passe, c'est une hausse des prix. En fait, c'est contrairement à l'idée qu'on a en tête, l'idée que justement ce serait mieux géré par des entreprises privées, etc. En fait, ce qui en résulte, c'est une vraie hausse des prix, et ça, empiriquement, ça se constate à peu près partout, tout le temps. Donc voilà, c'est accompagné de privatisations qui vont évidemment appauvrir les usagers des pays en question.
Oui. Donc, comme tu disais, comme il y a plus de femmes fonctionnaires, elles sont visées par les restructurations, elles sont atteintes par les restructurations du service public, puisque quand on coupe les services publics, République, on vire qui ? On vire les fonctionnaires, vire les femmes, et donc on vire des femmes.
Et oui, et puis de toute manière, dès qu'il y a du chômage, les femmes sont beaucoup plus touchées, et c'est particulièrement vrai donc, dans les services publics, puisque les femmes sont les premières, sont surreprésentées dans ces emplois-là. Donc voilà, ça s'accompagne de privatisation, d'inflation, et très souvent aussi, alors de dollarisation, ça pour les pays du Sud, c'est sûr, et c'est-à-dire que les échanges vont se faire essentiellement en dollars, sachant qu'il y a tout. Le dollar est une monnaie très forte, les monnaies, par exemple le peso en Argentine est une monnaie relativement faible par rapport en Espagne, ce qui accroît le fait que le coût de la vie augmente. Voilà. En gros, j'y reviendrai un peu après, mais voilà.
C'est une forme d'inflation.
C'est une forme d'inflation liée à la monnaie, d'accord. Parce que le FMI aussi impose à ces pays-là ce qu'on appelle des dévaluations. Ça a été typiquement le cas de l'Argentine en 2019. Je vous prête de l'argent, mais privatisation, mais dévaluation de votre monnaie. Ça veut dire quoi dévaluer la monnaie ? Ça veut dire qu'en fait, on baisse la valeur de la monnaie, son pouvoir d'achat, et l'objectif de ça. Pour le FMI en tout cas, c'est que le pays en question puisse davantage exporter et moins importer, en fait. Mais pour les habitants, ça revient à un coût de la vie exorbitant. Voilà. En ce sens-là, on peut vraiment dire que c'est une ingérence des pays et de politique en fait néolibérale par rapport aux pays du Sud essentiellement, quoi. Voilà. Donc c'est un instrument de gouvernance, d'imposition, de politique, notamment d'austérité, ce que vous voulez, des pays du Nord sur les pays du Sud. Voilà. Mais ce qu'elle montre aussi, et ce qu'elle rappelle plutôt, c'est que ça peut également être un instrument de gouvernance au sein même du pays. Parce que, et ça, c'est un point qui est assez intéressant dans leur livre et qui n'est pas tant que ça conceptualisé, c'est de montrer en fait qu'il va y avoir un transfert de la dette publique de l'État. Une transformation, si tu veux, de la dette publique de l'État en une dette privée des ménages. Okay. Et alors ça c'est assez intéressant. L'idée, c'est de dire que le désengagement de l'État dans les services publics, effectivement, lui permettre de réduire son déficit. Il va dépenser un peu moins d'argent, quoi. Et il va avoir potentiellement un peu plus de recettes. Voilà. Sauf que quand les services publics ne sont pas assurés, qu'est-ce qui se passe ? Qui prend le relais ? Donc on l'a vu, ça peut être des entreprises privées. Et c'est là qu'on va aborder aussi particulièrement la question des femmes un peu après. C'est que, c'est aussi les ménages eux-mêmes qui vont, en fait, tout ce qui est économie domestique, production domestique, donc dans le foyer, donc la santé, la garde des enfants, les transports, tout ça va être assuré de plus en plus par les ménages
eux-mêmes,
en fait. Or, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de dévaluation, les ménages, pour assurer ça, vont devoir s'endetter. Parce qu'en fait, ça exige quoi ? Ça exige un temps disponible supérieur pour faire ça. Pour les femmes particulièrement, ça renforce l'exigence d'emploi à temps partiel, notamment, donc dans l'appauvrissement aussi. Donc voilà, c'est ce qu'elle qualifie et ce qu'on qualifie en général d'un travail invisible des femmes, non rémunéré, gratuit donc, qui va être pris en charge par les foyers, notamment les femmes, au profit des investissements de l'État. Voilà. Donc en fait, par ce mécanisme-là, il va vraiment y avoir un transfert de la dette publique à la dette privée. Parce que les ménages, évidemment, vont s'endetter de plus en plus pour pouvoir subvenir en fait, à leurs besoins de base, quoi. Et ça, c'est particulier. Alors, nous, on l'a ressenti en Europe avec la crise de 2008 et aux États-Unis, etc. Mais c'est quelque chose qui est présent depuis bien longtemps dans les pays du Sud, par exemple l'Argentine et dans les pays d'Amérique du Sud. Et qui bah, finalement, est beaucoup plus vivace et beaucoup plus marquant, en fait, là-bas, même si ça existe aussi chez nous, etc. Les conséquences sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, la question du microcrédit, c'est une question qui touche particulièrement les pays du Sud, en fait. Un microcrédit, c'est le fait de devoir contracter un crédit, souvent à taux hyper élevé, 20-30%, sur du court terme. Pour pouvoir financer quoi ? Pour pouvoir financer essentiellement, et c'est là que c'est qu'est le problème, des dépenses courantes, en fait. Logement, alimentation, scolarité, etc. Donc voilà, en gros, l'idée c'est ça. C'est que les ménages vont...
Attends, c'est des taux usuraires.
Oui, ah bah...
On appelle ça du microcrédit, mais en fait c'est de l'usure.
Et c'est de l'usure. Et puis, alors après, ça c'est les taux moyens, hein, 20-30%. Après, en fonction du ciblage des microcrédits et de leur fonction, on va avoir des taux qui varient. Mais du coup, ça crée, de fait, un transfert de la dette publique, celle dont on parle tout le temps, en dette privée. Et ça, on le voit très bien.
Hein, la dette des particuliers.
La dette des particuliers. La dette des ménages. Et encore une fois, plus particulièrement, les femmes. Parce que toute cette production de subsistance, qu'elles appellent la production de reproduction, en fait, donc l'économie domestique, c'est assurée très majoritairement par les femmes. Donc en fait, ça revient à dire que l'endettement extérieur des États, en fait, est garanti par quoi ? Est garanti par un endettement privé, notamment des femmes, et notamment des plus précaires. Donc on a un vrai transfert de richesse, et on a un vrai transfert du poids de la dette des États vers les ménages, et plus particulièrement vers les femmes, et plus particulièrement vers les femmes les plus précaires, parce que qui va s'endetter le plus ? Les plus précaires. Donc voilà, et ça c'est ce qu'elles mettent en avant, et c'est ce qui est assez intéressant, ce transfert justement, de dette.
C'est un truc, ça me fait penser à quelque chose qui est peut-être vaguement lié, c'est Loïc Vacan dans Les Prisons de la Misère qui remarquait que globalement les dépenses de l'État en faveur des plus pauvres avaient été transférées, avaient été annulées. On dépensait plus d'argent pour les plus pauvres, mais l'argent qu'on dépensait pour eux était finalement, les sommes étaient reversées à des entreprises privées qui tenaient les prisons ou en enfermaient les plus pauvres à qui on avait sucré les subventions.
Et donc, pour aller en prison ?
Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, avant, on donnait de l'argent aux pauvres. Ils n'allaient pas en prison parce qu'ils pouvaient s'en sortir. On leur coupe les vivres. Et puis, l'argent qu'on dépensait pour eux, on dit « Ah, regardez, on a fait des économies. On dépense plus d'argent pour les pauvres. » Mais ce même argent, en réalité, des mêmes sommes, en tout cas, on les donne à qui ? À des entreprises privées qui tiennent des prisons.
Oui, exactement. Bah, c'est ça. Et puis là, les subventions pour les entreprises privées qui vont reprendre les services publics, c'est un peu le même principe aussi. Encore une fois, avec une augmentation des prix. Et donc, elles prennent plusieurs cas d'études particuliers, dont on parlera peut-être après.
Voilà, c'est Jeudi Noir. On vous présente une lecture féministe de la dette par Lucie Capeiro et Véronica Gago. Et là, on va faire un autre morceau de musique choisi savamment par José.
In turmoil, can you hear the people cry? The cost of living's rising and I'm too young to die. Never mind the government, don't listen to what they say. Cause if you do, a war is what they'll put you in today. Training camp with the other boys and lots of new toys. And then you'll learn to shoot a gun and drop a bomb and kill and kill and kill and kill and kill.
and the other G.I. Joes will be marching off to war. With nukes over here and chemicals there, it'll be another world affair and you'll all die.
Bonsoir, vous venez d'entendre les Frigidettes pour le morceau Turmoil, un morceau, c'est un groupe américain. C'est un morceau de 81, voilà, c'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et ce soir, donc Morane nous présente une lecture féministe de la dette, c'est le titre de l'ouvrage, édité chez Sileps et traduit très récemment en 2025. Donc un ouvrage d'économiste militante, Lucie Cavallero et Véronica Gago. Et donc dans une première partie, Morane nous a présenté une analyse un peu plus générale des effets finalement politiques de la dette au niveau des États et à deux niveaux, au niveau des du contrôle du Nord sur le Sud, pour simplifier un petit peu, mais aussi de la façon dont cela va se répercuter finalement sur... non pas les États, mais les particuliers, et tout particulièrement donc les femmes. Et donc tu voulais nous présenter, je crois, si j'ai bien suivi, des cas un peu particuliers. C'est à partir des entretiens qu'il y a à la fin du bouquin.
Voilà, c'est à partir des entretiens, et puis c'est à partir de leur travail de militante aussi. Donc elles militent, elles, dans le collectif Ni Una Menos, donc un collectif qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et un autre collectif qui s'appelle le comité d'abolition des dettes illégitimes. Voilà, ça c'est un collectif qui milite pour justement faire ce qu'elles font, mettre en avant les effets concrets de la dette sur le terrain et trouver des recours pour faire annuler en fait ces dettes-là. Et oui, donc elles prennent plusieurs cas particuliers pour matérialiser justement les conséquences de la dette. Donc, je le mentionnais un peu en début d'émission, là. Le fait que Macri avait contracté un prêt pour financer sa campagne électorale auprès du FMI. Enfin, Macri, le gouvernement argentin, en fait, qui a contracté un prêt auprès du FMI. Et ce prêt a servi...
Ça s'est bien gonflé, ça, voilà. À financer une campagne.
À financer une campagne, ce qui n'était pas du tout... Enfin, c'est pas du tout l'objectif des prêts du FMI. Les conséquences de ça, les contreparties exigées par le FMI, c'est justement cette dévaluation monétaire du peso argentin qui a entraîné une inflation énorme.
Voilà.
On parle de taux d'inflation à plus de 10%, quoi. Voilà. Sur un an. Donc ça a des conséquences fondamentales couplées à ce qu'on disait, la baisse des services publics et le retrait de l'État des services publics. Voilà. Elles prennent un autre cas un peu plus édifiant concernant justement le problème des femmes. En fait, en Argentine, les femmes de plus de 65 ans qui ne cotisent pas suffisamment, c'est-à-dire, en fait, on prend en compte le fait que les femmes sont essentiellement dans la sphère domestique, donc elles réalisent un travail invisible, un travail gratuit qui n'est pas salarié. Or, qui dit travail non salarié dit pas de cotisation. Qui dit pas de cotisation dit pas de retraite. Qui dit pas de retraite, dit pas de revenus.
Donc... tout de suite. Et ça a souvent été un angle mort des analyses marxistes qui s'intéressaient plus à la production, finalement, des richesses qu'à la reproduction du mode de vie.
Voilà. Et elles, ça, c'est un des points saillants de leur livre en disant qu'en fait, aujourd'hui, l'exploitation, le surtravail ne se fait plus sur la question du salaire, se fait moins sur la question du salaire, sur l'emploi salarié, en fait, que sur l'endettement, justement. Et en Argentine, il y avait ce dispositif-là. Les femmes de plus de 65 ans qui ne cotisent pas assez parce qu'elles réalisent un travail invisible gratuit peuvent accéder à une retraite. Voilà. Ça, c'était en place. Et qu'est-ce qu'on constatait ? On constatait que dès qu'elles touchaient cette retraite, en fait, les femmes quittaient massivement leur foyer. C'est-à-dire quittaient très massivement leur conjoint. Ce qui mène à penser quand même que les raisons pour lesquelles elles ne quittaient pas avant ça leur foyer, c'était faute de revenus de subsistance, en fait. finalement, cette allocation-là qui existait était une source d'autonomie tardive, mmh. mais une source d'autonomie importante pour les femmes. Voilà. Et donc, Macri a tenté de supprimer, justement, cette allocation pour les femmes au foyer, sous recommandation du FMI. Donc, en échange des prêts, etc. C'est une des mesures mmh. Qui était exigée, quoi. Donc là, on commence à toucher un peu du doigt ce que la dette peut faire à l'autonomie des femmes dans un pays où le travail domestique, et où surtout, il faut le dire aussi, en Argentine, l'économie informelle... Je ne sais pas si ça oui. parle si je dis ça. L'économie illégale, tout. Oui. Donc en fait, l'économie informelle, c'est toutes les activités de production qui se font hors de la sphère légale. Mmh. Voilà. Donc par exemple, le travail non déclaré. Voilà, les petits boulots, le travail non déclaré, etc. Donc ça, c'est une partie du PIB qui est énorme en Argentine. C'est un peu. Alors on sait toujours des estimations parce qu'on ne peut pas le quantifier par définition, mais on l'estime à un peu moins de 30% du PIB argentin.
Ah, c'est colossal.
Donc c'est colossal et c'est un moyen de subsistance pour une grande partie de la population. Mmh. Et en fait, les femmes sont surreprésentées dans l'économie informelle. Mmh. Voilà. Donc dans le travail non déclaré, etc. En plus du travail invisible. Hein. Voilà. Donc supprimer ça, ça touche essentiellement, très particulièrement les femmes. Quoi. Donc voilà, elle donne cet exemple-là pour montrer comment les politiques d'ajustement sous contrainte internationale peuvent vraiment être abordées sous un angle féministe dans les conséquences qu'elles ont pour les femmes. Donc elles avancent un concept, une idée, l'idée de la terreur financière qui s'installerait en fait à travers tous ces mécanismes-là. Et elles montrent que cette terreur financière est aussi un moyen d'éteindre la contestation. Notamment, alors comment en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que, si je refais un peu le schéma, les femmes qui sont obligées de contracter des prêts pour subvenir, enfin les femmes, les ménages, pardon, qui sont obligées de contracter des prêts pour subvenir à leurs besoins de base, se rendent en fait dépendantes du remboursement de la dette, de leur dette privée, tout en assurant encore une fois tout le travail domestique supplémentaire qui n'est plus pris en charge par les services publics. Donc c'est un peu la double peine pour les femmes là-dessus. Et pourquoi terreur financière ? Eh bien parce que ce temps-là consacré au remboursement de la dette, c'est autant de temps en moins disponible pour l'action collective, et donc c'est une dépossession par la dette de l'activité collective, c'est ce qu'elles avancent. D'autant plus que, et là, ça c'est assez, assez marquant du point de vue des politiques anti-féministes, en fait, hein, c'est que ces prêts-là se font aussi sous critères, si tu veux, de moralité. C'est-à-dire que il y a certains critères qui font que les femmes ont plus ou moins accès facilement aux prêts à des taux plus ou moins avantageux. Notamment, il y a certains critères comme le fait d'avoir un conjoint et d'avoir des enfants qui vous rend prioritaire sur ces prêts. Donc on voit bien le problème, c'est que les femmes ont de plus en plus besoin de prêts parce qu'elles ont perdu leur emploi dans la fonction publique et parce qu'elles doivent travailler pour s'occuper de la famille et parce que il y a eu une inflation qui les appauvrit. Et donc finalement cette terreur financière va s'imposer plus particulièrement aux femmes et diminuer leurs possibilités d'action collective. Voilà. Donc elle rappelle trois dimensions de la dette. Donc bien sûr, il y a une dimension matérielle qui se traduit par de la privation d'accès aux soins, d'accès au logement, d'accès à l'alimentation, etc. Mais aussi un mécanisme de contrôle qui passe par une invisibilisation du travail réalisé par les femmes dans la sphère domestique. Et finalement, la dette serait une forme de structure d'absorption des chocs, des crises, des chocs économiques en fait. Par qui ? Du coup, quand même, essentiellement par les femmes. Voilà. Donc, pour toutes les raisons qu'on a invoquées là. Et elle évoque une troisième dimension de la dette, qui est une dimension subjective en fait. Parce qu'elle montre que tous les préceptes, tous les critères moraux qui sont accolés à l'obtention de prêts Donc avoir des enfants, être marié, vivre dans un foyer stable, etc. Individualise largement le problème de la dette, d'une part, et conduisent à une acceptation plus grande de la servitude, en fait, hein, pour toutes les femmes qui sont aussi en dehors de ces critères-là.
Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent pouvoir accéder à de l'argent, et donc elles sont tentées de cocher les cases,
elles sont tentées
de trouver de mari, de faire des enfants, etc.
Exactement, elles sont tentées de cocher ces cases-là, et de rester donc, voilà, dans des foyers qui ne leur conviennent pas nécessairement, etc. Mmh. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée une double dépendance beaucoup plus forte chez les femmes, donc une dépendance à l'égard de leur conjoint, qui, lui, va avoir une source de revenus potentiellement plus stable parce qu'ils sont moins exposés au chômage, moins exposés aux emplois précaires, etc. Donc, elles sont d'autant plus dépendantes de leur conjoint. Et cette dépendance à leur conjoint leur assure une dépendance face au prêt, parce que c'est ce qui leur permet d'accéder au prêt. Donc, en fait, elles sont enfermées. Ouais. Elles ont une double dépendance par rapport à l'homme, ouais, et par rapport à l'État, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est dans ce sens-là que la dette a un impact. On peut faire une lecture féministe de la dette qui impacte très particulièrement les femmes. Bon, voilà, je peux peut-être mentionner un dernier exemple qui va dans ce sens-là, mais en fait, le livre est fourni d'exemples et fourni de témoignages qui vont dans ce sens-là. C'est la question de l'allocation enfant. En fait, les femmes peuvent avoir accès à une allocation enfant, quand elles ont des enfants, donc, qui conditionne, encore une fois, l'accès à certains prêts, notamment des prêts à la consommation. Et pendant la pandémie Covid, ils ont connu, comme nous, l'école à distance, etc. Sauf que dans ce pays-là, l'accès à Internet n'est pas généralisé comme pour chez nous, donc ça se faisait essentiellement à travers les forfaits mobiles, en fait, de téléphone. Les forfaits de téléphone ayant, comme tout le reste, vu leur prix s'envoler, eh bien, on a une fracture, là, face à l'éducation qui s'est d'autant plus creusée. L'éducation qui est souvent l'affaire des mères, quoi, en fait, pour aller vite. Donc, il y a eu un prêt spécial qui a été mis en place pour permettre aux femmes donc d'accéder à des emprunts qui leur permettent de financer, par exemple, les communications téléphoniques. Mais toujours pareil, ces prêts-là étaient conditionnés, non pas seulement à avoir un enfant, ce qui ça peut paraître éventuellement logique, mais à être en couple. Voilà. Donc en fait, les femmes en couple avaient priorité sur les femmes mères célibataires. Donc on a vraiment une moralisation de la dette qui s'inscrit, une moralisation du couple en fait. Et là on voit bien le lien que elles font entre dette, patriarcat, et puis dette et aussi violence machiste, puisque le fait de devoir assurer un travail invisible toujours plus grand dans les foyers crée une pression supplémentaire qui peut de moins en moins être remplie de fait, puisque les femmes vont se tourner vers des emplois non déclarés en fait, tout simplement, pour pouvoir rembourser la dette. Voilà. Et si elles se tournent vers ces emplois non déclarés pour rembourser la dette, en fait elles font une corrélation entre ça et la hausse des violences domestiques, des violences machistes en fait.
La dépendance, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse... Parce que, par exemple, en France, on sait que, par exemple, les femmes qui sont porteuses d'un handicap et qui sont en couple sont souvent, pour des raisons plus dépendantes. Et de ce fait, il semble qu'il y ait aussi une corrélation avec une hausse des violences.
Parce qu'elles sont plus dépendantes.
Dont elles sont victimes, parce qu'elles sont plus dépendantes.
Oui, alors là, elles font ce lien-là, effectivement, mais elles soulignent le fait que les politiques de restructuration du FMI, l'endettement, etc., va imposer encore une fois aux femmes un surtravail, en fait, de retourner vers l'économie informelle, donc en gros, de choper des petits boulots pour pouvoir rembourser la dette qui ne leur est accordée que si elles ont un conjoint qui lui a un salaire, et que cette double charge-là, travail informel plus travail domestique, rend la réalisation de l'ensemble plus difficile et crée des tensions au sein du couple, pour aller vite, ce qui accroît les actes de violence.
Aussi.
Voilà. Donc voilà, on a toute cette dimension-là vers lesquelles, qui leur permet en fait de tirer la question un peu abstraite de la dette vers une question de violence faite aux femmes et de dépendance. Mmh. En gros, la dette crée de la dépendance plus spécifiquement pour les femmes. Mmh. Voilà. Donc, et puis elles abordent ça de manière assez, assez factuelle. Elles rappellent quelques chiffres. Ben, les femmes constituent 70% des pauvres, des ménages pauvres, hein, au niveau mondial. 80% des emprunts microcrédits sont des emprunts contractés par des femmes. Bon, alors ça, c'est, j'ai pas tout à fait compris la méthodologie de ce chiffre-là, mais 80%, alors ça c'est au niveau mondial, 80% du travail total, qui comprend travail salarié et travail domestique gratuit, invisible, serait réalisé par des femmes qui toucheraient 10% des revenus. Voilà.
Oui.
Donc bon, alors là-dessus, voilà. En gros, l'idée c'est quand même de dire que les femmes effectuent un double travail, un surtravail, qui n'est pas rémunérée et qui les rend dépendantes à la fois de leur mari et à la fois de l'État. Voilà. Mmh. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est de montrer que le recours au prêt est conditionné par des critères moraux liés à la situation...
matrimonial.
Matrimonial. Matrimonial et moral, en fait, aussi des femmes. Tout particulièrement en Argentine. Voilà. Et donc, ça, c'est des aspects de la dette qui ont été vus et analysés par les institutions que sont le FMI et la Banque mondiale, qui ont donc mis en place, par rapport à ça, ce qu'on appelle des gender budgeting, préconisent d'identifier particulièrement ce que font les crises aux femmes, ce que fait la dette aux femmes, et d'adapter les politiques. Et la réponse du FMI et la réponse de la Banque mondiale, c'est quoi ? C'est justement de privilégier l'accès au crédit et au microcrédit vers les femmes, quoi. Voilà, d'en faire une cible privilégiée.
Ouais. ça a l'air d'être, comment dire, un peu plus de poison pour guérir le poison.
C'est ça, et c'est ce qui renforce le cercle dans lequel elles sont enfermées. Voilà, mais... et donc on a.
Et comme vous êtes une bonne cliente, on veut vous refaire un prêt, quoi.
Oui, et bien sûr, tout ça, c'est accompagné de discours autour de l'empouvoirment des femmes. Et donc, on a une figure qui émerge beaucoup aussi en Argentine et qui est très valorisée, c'est celle de la femme entrepreneuse. Donc la femme qui va notamment contracter un crédit pour pouvoir monter son entreprise et pour pouvoir assurer sa subsistance, en fait, hein. Donc bon, on va peut-être faire une petite pause pour reprendre après.
Now
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Vous venez d'entendre un morceau français, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, d'un groupe qui se nomme Monster Pussy, et qui, le titre, c'était de Poor Little French Girl. Donc là, de 95, alors ça m'a un peu surpris parce qu'on aurait vraiment dit du Beat Happening. Et au début, je me suis dit, oulala, c'est quoi, c'est de la Lofi de Seattle? Et là, je vois, non, ah merde, c'est français. Ah, ah, enfin. Donc, nous aussi, on peut faire de la Lofi en mode Beat Happening. Et donc, la Morane nous présente donc un bouquin qui s'intitule Une lecture féministe de la dette, un livre écrit donc par Lucie Cavallero et Véronica Gagaud, qui sont deux autrices économistes et militantes argentines, qui partent de la situation particulière dans leur pays qui a été très très longtemps soumise à la dette. Donc, à la fin de la deuxième partie, Morane nous exposait un petit peu les solutions qu'ont essayé de proposer le FMI, la Banque mondiale, à l'endettement excessif et inégalitaire des femmes. Et en fait, ces solutions sont de pseudo-solutions, puisqu'elles consistent à leur accorder davantage de prêts. Et moi, pendant que Morane racontait ça, je me rappelais un petit peu de toute la propagande qu'il y a eu récemment, ces dernières années, sur l'aspect humanitaire du microcrédit, qui permettrait, justement, aux femmes des pays les plus pauvres d'acheter leur âne, qui leur permettent de transporter des marchandises ou de l'eau, qui leur permettrait d'acheter, des trucs qui leur permettent de monter leur petite entreprise. Et je crois qu'il n'y a pas eu des prix Nobel pour le microcrédit, si, ou des trucs dans ce genre-là.
Je ne les ai plus en tête, mais oui, il y a eu des prix Nobel sur la solution pour les pays du Sud du microcrédit comme vecteur de création d'entreprises pour aller vite, d'activités productives. Sauf que il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte sur le microcrédit, comme
d'activités productives qui étaient aussi, qui devenaient tout d'un coup visibles, qui donc pouvaient être prises en compte dans l'économie, officielle, voilà. Contrairement à toute l'économie informelle qui habituellement, fait vivre les gens.
Oui, ça c'est tout le discours qu'il y a autour du microcrédit, de dire que ça rend le travail gratuit et invisible des femmes enfin visible et enfin gratuit.
Enfin
rémunéré, effectivement, oui. Il faut voir donc ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions qui sont assorties à ce microcrédit, des conditions d'ordre moral notamment aussi, de bonne moralité, il faut mettre en avant une certaine moralité, être en couple, etc.
Un certificat de bonne vie et mœurs, exactement, comme on disait au 19e siècle.
Voilà. Et ça, c'est laissé à la libre, appréciation des banques, en fait, du pays, et des conditions imposées aussi par l'État, en fait, ces conditions de bonne moralité. Et l'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est justement ce que je disais, c'est les taux, en fait. Les taux du microcrédit qui sont... les taux moyens des microcrédits sont de 20%. Voilà. Donc, vous contractez un prêt, un microcrédit qui vous permettra d'acheter un âne et de monter votre entreprise, et qui vous obligeront à des remboursements de l'ordre de 20%. Tout en sachant que, alors c'est une particularité des microcrédits aussi, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des taux variables.
C'est la double peine,
c'est l'escroquerie,
c'est monstrueux en fait.
Oui, c'est une escroquerie monumentale parce que pas assez encadrée en fait. Et les taux variables, c'est des taux qui augmentent évidemment avec l'inflation. Voilà, ça on l'a vu. Et c'est des taux qui augmentent aussi avec ce qu'on appelle le risque de défaut, donc le risque de non-remboursement. Et ce risque de défaut, il est adossé à quoi ? Il est adossé au risque de défaut du ménage, sa situation financière, etc., à celui qui ou celle qui contracte l'emprunt. Mais il est aussi adossé au risque de défaut de l'État, de la dette publique elle-même.
Ah oui, c'est ce genre de crédit dont tu rembourses toujours des intérêts sans jamais payer le principal.
C'est pour ça que je disais en début d'émission là que les pays du Sud ont remboursé 35 fois le montant qu'ils ont emprunté aux pays du Nord. C'est cet effet-là de taux variable, justement. Ouais. Notamment.
Mais là, sur les ménages et pas seulement sur les États.
Mais parce que, justement, il y a un transfert c'est un transfert de la dette publique à la dette privée. Le remboursement fois 35, c'est essentiellement, on parle toujours de pays, mais c'est les ménages, en fait, essentiellement, qui l'ont payé. Donc, en fait, ça se traduit par, ces microcrédits se traduisent par un appauvrissement des ménages.
Sur le prix Nobel, notre fact-checker officiel, José, en direct de Saint-Étienne, qui contrôle tout ce qu'on dit en direct grâce à l'IA, nous dit que le prix Nobel de la paix 2006, c'est Mohamed Yunus, surnommé le banquier des pauvres, qui est aussi ministre de la Défense en Inde. Donc voilà, un mélange des gens. Donc merci au fact-checking.
Oui, voilà. Et donc, dans le cas... Alors, c'est vrai que les microcrédits ont été très répandus en Inde et c'est toujours... Alors, c'est assez similaire, hein, la structure de ces prêts. Ils sont essentiellement accordés aux femmes, avec des conditions très particulières, etc. Donc, ce qu'on a décrit là, dans des mesures et dans des contextes différents, suit toujours les mêmes mécanismes, en fait. Puis, y a un cas aussi un peu d'école qu'elle mentionne, là. À Buenos Aires, c'est le cas de ce qui a été appelé la Villa 31. En fait, au cœur de Buenos Aires, est un immense bidonville. Enfin, il y a un immense bidonville pour le dire assez rapidement, vit une économie donc informelle hyper importante, composée très grandement de femmes. Voilà. Et pour rembourser un emprunt qui avait été contracté par la ville de Buenos Aires, la ville a décidé de revendre les terrains sur lesquels était ce bidonville à une banque internationale, pour aller très vite. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, il y a eu une grande contestation, notamment menée par les mouvements féministes. La négociation a donné lieu à un espèce de compromis qui établissait ces termes-là. En fait, une partie des terrains allait être mise à la vente pour les habitants des bidonvilles. Habitants des bidonvilles qui... pour pouvoir payer le terrain où ils habitent déjà.
Se sont endettés auprès de la banque.
Se sont endettés auprès de la banque à des tarifs. Alors, là, pour le coup, c'était 27%. Voilà, des taux de 27%. La particularité de ce cas-là, alors bon, on retrouve toujours les mêmes choses, hein, c'était orienté surtout pour les couples, en priorité pour les couples hétérosexuels ayant un enfant, ces prêts-là. Un des critères aussi de priorisation, c'était que justement la femme dans ce couple-là n'ait pas d'activité salariée. Voilà.
Ah oui.
Ça faisait passer en priorité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, on encourageait le transfert vers l'économie informelle et encore une fois, une plus grande dépendance, si on voulait obtenir le terrain, des femmes à leur conjoint et qui se retrouvaient relégués dans le secteur à nouveau informel.
Évidemment présenté comme on va aider les plus pauvres.
Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'était de donner accès aux plus pauvres, mais de fait, on est sur un bidonville. L'emploi salarié, de toute façon, était très majoritairement masculin quand il existait, sachant qu'il y avait une prédominance énorme de...
Et puis, il y avait une arnaque de base, étant donné que ces gens-là vivaient déjà sur des terrains. Et qu'on leur a demandé d'acheter l'endroit où ils vivaient déjà.
Oui, et puis après, il y a tout un tas de subtilités qui rentrent en jeu aussi. C'est que, en fait, on leur vendait pas uniquement les terrains, on leur vendait tout un lotissement, des habitats déjà construits, en fait. Donc, en fait, on allait construire des petites maisons, des petits appartements sur ces terrains-là qu'on allait leur revendre. Et comme c'était des gens qui vivaient essentiellement de l'économie informelle... La structure des maisons, alors l'économie informelle, là surtout c'est de la menuiserie, l'exploitation agricole, etc. La configuration de la construction de ces nouvelles maisons-là empêchait toutes ces activités d'économie informelle de subsistance, en fait, parce que pas de terrain, en fait. Pas de terrain, des espaces relativement étroits, etc. Donc voilà, ça rend l'équation impossible. Encore une fois, on augmente la dépendance des femmes à tous ces recours-là et à leurs conjoints aussi. Voilà, elles mettent en avant, donc j'avais avancé tout à l'heure le chiffre des femmes qui quittaient leur mari une fois qu'à 65 ans, elles touchaient l'allocation. Elles évoquent aussi un autre chiffre, c'est que pourquoi les femmes ne quittent pas leur mari au-delà de cette dépendance. En fait, c'est les conséquences qui s'en suivent. elle montre qu'en Argentine, un tiers des femmes qui ont quitté leur conjoint, malgré tout, en fait, se sont retrouvées sans domicile fixe. En fait, voilà. Et le reste des femmes qui ont quitté leur conjoint, elles pouvaient s'appuyer sur des ressources annexes, de la famille, etc. Mais du coup, on a quand même un tiers. En gros, ça donne une idée. Hein. Un tiers des femmes qui ont quitté leur mari deviennent SDF. Donc, on se rend compte de l'ampleur des femmes qui ne peuvent pas quitter leur mari parce que manque de ressources, parce que manque de liens, etc. etc. Donc, voilà, on arrive sur la question, ce qu'elle souligne vraiment, hein, du fait que le mode de gouvernance par la dette s'appuie donc sur un travail invisible des femmes, invisible, informel des femmes, puisqu'encore une fois, les services publics ont été relégués dans la sphère privée, enfin, à la charge de la sphère privée. Et c'est bien ça qui conditionne les prêts, et encore une fois, c'est bien ça qui conditionne le fait que l'État lui-même puisse s'endetter, parce que l'État va transformer son prêt public en prêt privé. Et c'est ce qui va conditionner, encore une fois, que les banques et des institutions comme le FMI puissent prêter de l'argent au pays. Donc, en gros, tout le propos de la démonstration, c'est quand même de montrer qu'au final...
C'est une espèce de système de poupée russe un peu dément.
C'est un système de poupée russe qui fait qu'à la fin, quand on ouvre la dernière poupée russe, on a quoi ? On a qui ? On a une femme précaire dans l'économie informelle qui porte cette charge-là, quoi, au final. Voilà.
À noter qu'il y a des chiffres aussi relativement effrayants sur, sur la place des femmes en France, et en particulier des femmes célibataires avec enfants chez les plus pauvres. Qui est plus pauvre. Vraiment, les plus précaires. Voilà, si vous voulez être super précaire en France, soyez femme célibataire avec enfant.
Racisme.
Et là, vous avez le pompon en quelque sorte, sachant que énormément de choses sont indexées à la famille et au travail aussi. Et donc, c'est pas mal quand même tout ça. Alors, est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs et nos auditrices de lire ce livre, donc Une lecture féministe de la dette, de Lucie Cavallero et Véronica Gago, édité aux auditions Sileps?
Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est un livre qui est intéressant dans ce qu'il propose, la lecture féministe de la dette. Mmh. Est-ce que je le conseillerais à des lecteurs avisés? Parce que, la structure du livre se fait par beaucoup de petites entrées pour laquelle on a un peu de mal à retrouver la cohérence, en fait. Après, le livre est très bien fait, mais je pense qu'il faut avoir eu peut-être des lectures ou des questionnements préalables pour pouvoir peut-être aborder ce livre, qui, ceci dit, est très court. En fait, il y a toute une moitié du livre sur la conceptualisation théorique qui est assez ardue, je trouve. Et on a toute l'autre moitié du livre qui, là, pour le coup, est beaucoup plus terre-à-terre et qui est fondée sur des entretiens menés par les deux chercheuses, là, sur le terrain. Voilà, auprès de femmes, de familles, de militantes aussi, qui, justement, mettent en avant ce que leur fait la dette. Voilà.
Ok. Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver l'émission donc sur le site de José, gurdulu.org. C'est ça, un truc comme ça, archives, jeudi noir. Il y a plein d'autres trucs vachement bien. C'était Morin qui nous présentait donc le livre de Lucie Cavallero et Véronica Gago, Une lecture féministe de la dette, violence économique et désobéissance financière aux éditions Sileps. Et là, donc, on va se quitter sur un morceau encore sélectionné par l'immense et, comment dire, avisé José, d'un morceau de fille, donc pour Little Witch Girl, un morceau américain de 2016.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est GMC+, votre rendez-vous mensuel avec la musique entre guillemets classique. N'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien, vous connaissez le problème. Vous avez la possibilité de retrouver les informations sur ma page GMC+ ou JazzLib, en général je mets les deux. La playlist, les pochettes des albums, toutes les informations. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr. N'oubliez pas de consulter également le site de la radio, radiolibertaire.net, sur lequel il y a la possibilité de réécouter les émissions en podcast téléchargées pendant 12 mois après la fin de la diffusion. Et vous avez également l'agenda avec l'ensemble des dates des émissions de la radio. Alors, comme je l'ai intitulé dans l'agenda, il s'agit d'un des derniers romantiques de la musique du fin 19e et début 20e, puisqu'il s'agit de Sergueï Rachmaninov, ou Serge Rachmaninov. Voilà, alors, si vous voulez en savoir plus sur Rachmaninov, il y a évidemment beaucoup à dire, c'est une vie très agitée, ça tombe en même temps que la révolution russe. Donc, je vais essayer de faire vite pour passer, je dirais, l'essentiel, à savoir en écoutant le plus de musique possible. Alors, il est né le 1er avril 1813 à Semyonovo, qui était dans l'Empire russe, et il est mort le 28 mars 43 à Beverly Hills, aux États-Unis. Donc, il a été considéré comme l'un des meilleurs pianistes de son époque. D'ailleurs, il a une main immense qui lui permet d'aller jusqu'au 13e. Donc, la 13e, c'est l'extension... Comment dire? Vous voyez ça sur un piano, l'octave c'est de do au do suivant, donc la 13e ça vous emmène très très loin. Il est également compositeur, et donc là il y a aussi un petit hiatus parce que on le considère soit comme un pianiste, soit comme un compositeur. Bon, donc en fait il est les deux. Il a d'abord été influencé par Tchaïkovski et Rimsky-Korsakov, entre autres. Et donc, il va développer un idiome tout à fait particulier, très post-romantique. Moi, je trouve d'ailleurs que dans certains traits de son écriture pianistique, il y a quelque chose qui rappelle un peu un Liszt moderne. Ben, voilà. Tout en étant complètement indifférent à l'évolution de l'époque. Il faut se rappeler quand même que Stravinsky arrive, Prokofiev, et puis le dodécaphonisme, tout ça. Ça l'intéresse pas. Le piano, donc, c'est une place prépondérante dans ses compositions qui, en fait, met un point d'honneur à utiliser des interprètes capables de le faire. Donc, déjà, il faut trouver une grande main. Moi, par exemple, je ne pourrais pas jouer Rachmaninov